épisode 29 de la French Connection. Cette semaine, je vais être seul à animer le podcast, étant dans un normalement dans un épisode hors série, mais comme on n'a pas de sujet particulier, je vais juste faire le tour des nouvelles. Et depuis la dernière semaine, il n'y a pas eu tellement de nouvelles qui se sont présentées pour fin de discussion. Je vais commencer par une première nouvelle qui stipule que les douanes américaines n'ont pas vérifié la validité du passeport électronique, en tout cas du moins l'élément électronique du passeport pour afin de vérifier l'authenticité de celui-ci. C'est une nouvelle qui est un peu décevante en soi puisque on espère que ces mesures-là qui ont été mises en place dans ce cas-ci en 2007 au niveau américain servent justement à limiter le déplacement hostile ou non légitime de gens à travers la frontière américaine. Donc, dans la mesure où le service des douanes n'a jamais rien fait, c'est un petit peu décevant que mettre des mesures de sécurité dans le fond qui fait juste renforcer la perception qu'on est dans un univers où ce qui en ressort ultimement, ce n'est que du théâtre. C'est un peu troublant, surtout que ça a été très dispendieux comme mise en œuvre, puis nous, comme Canadiens, on a dû avoir certaines mesures supplémentaires qui ont été rejetées à nos propres passeports dans certains cas, ou dans le cas des passeports, des permis plus qui avaient été développés à ce moment-là. Puis ce qui est peut-être un peu plus troublant ultimement dans cette nouvelle-là, c'est que ça fait déjà plusieurs années que cet état de fait-là est connu de la part des autorités du CPB, CBP, en tout cas, la Custom Border qui contrôle cet aspect-là. Donc, tout ça est décevant. Si au moins les mesures de sécurité qui étaient mises en place servaient vraiment à augmenter la sécurité, parce que comme citoyen, moi, ma propre sécurité m'intéresse et j'apprécie quand les autorités mettent des mesures en place qui sont utiles et efficaces pour limiter ça. Au même titre qu'au niveau des avions, même si je trouve ça contraignant les mesures de sécurité qui sont mises en place, j'ai un souhait énorme que ces mesures-là empêchent justement à ce qu'un prochain avion explose, ou surtout un avion dans lequel je suis dedans, mais en tout cas de façon générale qu'un avion explose ou qu'un terroriste vienne prendre en charge un avion de façon hostile. Fait que donc j'étais un peu tiraillé par ça, fait que les mesures de sécurité devraient peut-être être un peu plus rehaussées de façon pour augmenter l'efficacité et non augmenter l'apparence d'efficacité. Seconde nouvelle, la SEC, le Security Exchange Commission, vient de mettre à jour son guide de divulgation au niveau des incidents de cybersécurité. Cette mise à jour-là essentiellement sert à raffiner un peu l'approche qui doit être prise pour diffuser les informations par rapport aux sécurités, brèches de sécurité, aux incidents de sécurité. Donc, c'est bien quand même que il y a une certaine forme de clarification et d'amélioration qui soit faite à ce genre de choses-là. C'est sûr que ça allait exiger que des vulnérabilités comme Spectre et Meltdown apparaissent, que Equifax aussi apparaissent pour obliger l'unité de normalisation, en tout cas de contrôle des marchés publics à devoir intervenir, mais quand même, ultimement, c'est plus intéressant malgré tout que ça arrive plus tard que jamais en ce sens-là. Troisième nouvelle, cette fois-ci, on revient encore avec Amazon, les Bucket S3. Encore une fois, il y a une compagnie qui, à travers une mauvaise configuration de son Bucket S3, dans ce cas-ci, c'est FedEx. À la défense de FedEx, c'est une compagnie qu'ils ont achetée précédemment, mais il demeure que c'est un peu décevant encore que les gens configurent un peu mal leur bucket S3. Surtout en considérant, que du moins de nos jours, je ne sais pas si en 2014, quand FedEx avait acheté, c'était le cas, mais Amazon met beaucoup d'avertissements quand on ouvre de façon un peu trop large ou un peu de façon inefficace la sécurité des buckets. Donc à ce moment-là, c'est une validation de voir peut-être une prise de conscience des gens. Puis en ça, il ne faut pas non plus s'écarter de l'usage des services de cloud, parce que les clouds sont pas si mauvais, mais il demeure que si le problème de configuration est beaucoup plus dommageable, puisque le service est exposé, un service interne qui est mal configuré a souvent moins d'impact, du moins public, qu'un service qui est mis sur dans le cloud, dans ce cas-ci, dans S3. Donc, ce serait peut-être de valider à ce moment-là, quand on envoie dans l'info nuagique, dans le cybernuage, d'avoir des mesures de configuration et de sécurité, mettons, un peu plus avancées que ce qu'on trouve normalement dans les configurations internes. Puis, ultimement, d'importer cette rigueur-là dans nos configurations internes, dans nos entreprises aussi, serait probablement une excellente chose aussi. Passons à la nouvelle suivante, qui est celle-ci par Zataz, qui mentionne que les fuites de données, dans ce contexte, il faut prendre un contexte européen, viennent causer des préjudices très importants aux PME et PMI, qui subissent des dommages très importants suite à la fuite d'informations, puisque sont souvent mal outillés, mal financés dans leur démarche comme ça. Et ainsi de suite, là, les pénalités qui s'en viennent avec le RGPD, entre autres, qui s'en viennent, sont de plus en plus importantes et significatives. Donc, les compagnies qui ne protègent pas adéquatement ou qui prennent des risques inutiles face aux données de leur clientèle peuvent être prise à partie par le public, par la CNIL, entre autres en France, qui va intervenir pour la protection des citoyens et peut-être nuire utilement à ces compagnies-là. Puis à ça. Donc, on tombe dans un ère nouvelle où ce n'est plus la place pour l'espèce de désinvolture qu'on avait eu par les années passées de l'absence de sécurité. Au même titre où on doit maintenant barrer nos portes, on doit aussi maintenant avoir une hygiène de sécurité qui est équivalente. Sinon, les compagnies qui n'ont pas cette hygiène-là vont subir les affres des attaques. Puis dans ce cas-ci, c'est ce que Zataz fait référence est un URL malicieux qui vise spécifiquement des compagnies françaises dans ce cas-ci, mais dans lequel on n'est pas on n'est pas exclu non plus. Là. Puis d'ailleurs, ce qui me fait penser que lors des élections françaises, il est apparu dans les journaux d'événements de plusieurs compagnies au Québec, et peut-être plus d'identités gouvernementales, mais en tout cas des compagnies aussi, qu'il y a eu une affluence plus grande d'attaques qui, d'apparence, arrivaient de la Russie, pour donner un peu de crédit à toute l'histoire qui tourne autour de ça, sans dire que c'est nécessairement les Russes, parce que l'attribution est un élément très complexe, mais il y a une recrudescence parce que pour plusieurs entités attaquantes, que ce soit la Russie ou autre, le fait francophone du Québec, des fois, portait à confusion et attirait des attaques supplémentaires à l'intérieur de nos entreprises ici. Une autre nouvelle, faire encore un autre tour sur Spectre Meltdown, puisque ça, c'est un autre saga qui n'est loin d'être terminée. Puis on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment cela va se matérialiser. Dans ce cas-ci, certains chercheurs ont découvert des nouvelles variantes de Spectre Meltdown, c'est-à-dire de nouvelles variantes pouvant atteindre les comportements non voulus des processeurs Intel. Dans ce cas-ci, j'ai pas les détails si ça affecte d'autres types de processeurs, mais généralement, c'est plus la logique ou la compréhension de la logique de processeur d'accélération prévision des commandes futures qui est souvent utilisée dans cette mode d'attaque-là et d'autres variantes. Donc, ça va prendre plusieurs années. En tout cas, minimalement plusieurs mois, c'est pas plusieurs années avant qu'on voit une diminution réelle des attaques qui sont de ce côté-là, puisque les processeurs depuis les 20 dernières années ont été conçus avec cette approche-là en tête. Donc, je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on va disparaître, puis je pense qu'on va encore en entendre parler dans les prochaines semaines. Puis une dernière nouvelle qui, cette fois-ci, affecte T-Mobile, qui avait une attaque qui permettait de hijacker un compte utilisateur, c'est-à-dire d'aller chercher un compte utilisateur d'une autre personne qui a été divulgué de façon, dans ce cas-ci, correcte à T-Mobile, qui a corrigé le problème sur son site avant même que la diffusion publique de cette vulnérabilité soit connue. Donc, quand même une réponse très rapide, ce qui est de plus en plus agréable de voir les compagnies de plus astucieuses, sérieuses, tant qu'à la gestion de déclaration de vulnérabilité et d'avancer avec ça. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. On n'est pas beaucoup de nouvelles, pas beaucoup de choses. Faute de temps, un peu de ma part et peut-être des autres participants aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Over and out.
Thank you.